Chapitre 4. Je ne fus nullement surpris de me réveiller vivant. Je suppose qu'on est plutôt surpris quand on se réveille mort. Quoi qu'il en soit, je n'éprouvais pas d'autre sensation d'inconfort qu'un vague picotement des extrémités, et je restais à observer une tache de soleil qui s'étalait sur le plafond de plâtre inégal durant une minute ou deux, avant qu'une pensée me sorte brusquement de ma torpeur. Une seconde. Est-ce qu'ils ne m'ont pas ? Je me redressais pour regarder autour de moi. Si j'avais le moindre doute que mon exécution eût été un rêve, le caractère prosaïque de mon environnement présent le dissipa aussitôt. La pièce était de forme circulaire, avec un mur extérieur courbe, blanchi à la chaux, et un plafond de plâtre mal aplani. Pour tout mobilier, il y avait un lit, dont le couvre-lit écru était assorti aux textures du plâtre et de la pierre. La porte, fermée, était en bois massif, mais la fenêtre en ogive était ouverte à tous les éléments. Un seul regard au ciel lapis qu'elle laissait apercevoir m'apprit que je me trouvais toujours sur Hyperion. J'étais certain, en tout cas, de ne plus être dans la prison de Port-Romance. La pierre que j'avais sous les yeux était trop vieille, les détails de la porte trop ornementaux, la qualité de la literie trop luxueuse. Je me levai, m'aperçus que j'étais tout nu, et m'avançai jusqu'à la fenêtre. La petite brise automnale était vive, mais le soleil me chauffait la peau. Je me trouvais dans une tour de pierre. Le chalme jaune et les enchevêtrements touffus de vorte tissaient une voûte solide qui couvrait les collines à perte de vue. Les buissons bleus épineux poussaient sur les falaises de granit. J'apercevais aussi d'autres murs, des remparts, et la courbe d'une deuxième tour se détachant sur la même ligne de crête que celle où je me trouvais. Les murs paraissaient très vieux. Par leur style et leur architecture, toutes ces constructions donnaient l'impression d'appartenir à une époque bien antérieure à la chute. Je devinais aussitôt où je me trouvais. Le chalme et le vort suggéraient que je devais encore être sur le continent sud d'Aquila. Les ruines élégantes ne pouvaient être que celles de la cité abandonnée d'Endymion. Je n'avais jamais visité la ville d'où ma famille tire son nom, mais j'en avais entendu de nombreuses descriptions de la bouche de Grande Dame, la diseuse d'histoire de notre clan. Endymion fut l'une des premières cités édifiées sur Hyperion après l'accident du vaisseau de descente un peu moins de 700 ans plus tôt. Jusqu'à la chute, elle était célèbre pour sa splendide université, une énorme construction qui ressemblait à un château fort et dominait toute la vieille ville. Le père du trisaïeul de Grande Dame y avait enseigné jusqu'à ce que les troupes de la Pax occupent toute la région centrale d'Aquila, et oblige littéralement des milliers de personnes à fuir devant elle. C'était là que je me retrouvais. Un homme chauve, à la peau bleutée et aux yeux bleu cobalt, entra, déposa sur le lit des sous-vêtements et une salopette en coton rêche en disant « Veuillez vous habiller ». J'avoue que je le regardais longuement en silence tandis qu'il tournait les talons pour s'en aller. Cette peau bleue, ses yeux brillants, cette absence de cheveux, ce devait être un androïde, le premier que je voyais de ma vie. J'aurais juré qu'il n'y avait plus d'androïdes sur Hyperion. Leur biofabrication était illégale depuis avant la chute, et bien qu'ils eussent été importés par le légendaire roi Billy le Triste pour bâtir la plupart des cités du Nord plusieurs siècles auparavant, je n'avais jamais entendu dire qu'il pût en rester un sur notre monde. Je commençais à m'habiller en secouant la tête. La salopette m'allait très bien, malgré la largeur inhabituelle de mes épaules et la longueur de mes jambes. J'étais de nouveau devant la fenêtre lorsque l'androïde revint. Il demeura dans l'encadrement de la porte en me faisant un signe de sa main ouverte. « Par ici, je vous prie, à Chandimion. » Je résistais à l'envie impulsive de lui poser des questions et le suivit dans l'escalier de la tour. La pièce du haut occupait tout l'étage. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers des vitraux aux teintes rouges et jaunes. Une fenêtre au moins était ouverte et laissait entendre le froissement de la voûte feuillue tout en bas, caressée par la brise qui montait de la vallée. Cette pièce était aussi blanche et nue que l'avait été ma cellule, à l'exception d'un noyau d'appareils médicaux et de consoles de communication en son centre. L'androïde se retira en refermant derrière lui la lourde porte, et il me fallut quelques secondes pour me rendre compte qu'il y avait un être humain au milieu de tous ces appareils. J'avais tout au moins l'impression que c'en était un. Il était vautré sur un lit flottant en mousse lovée réglé en position assise. Des tuyaux, des gouttes à gouttes, des filaments de surveillance et des ombilicaux à l'aspect organique reliaient l'appareillage au personnage ratatiné qui occupait le lit. Je dis « ratatiné », mais son corps semblait en fait presque momifié. Sa peau faisait des plis qui évoquaient ceux d'une vieille veste en cuir trop longtemps portée. Son crâne était tacheté et presque totalement chauve. Ses bras et ses jambes n'existaient qu'à l'état d'appendice vestigiel. Tout dans l'apparence de ce vieillard évoquait pour moi un oisillon fripé et sans plumes tombé du nid. Sa peau parcheminée avait une coloration bleutée qui fit surgir à un bref instant dans mon esprit le mot « androïde », mais ce n'était pas tout à fait la même teinte de bleu. Le léger brillant des paumes, les côtes saillantes et le front indiquaient plutôt que j'avais affaire à un véritable humain qui avait bénéficié, ou souffert, de plusieurs siècles de traitement Poulsen. Plus personne ne suit ce traitement aujourd'hui. La technologie s'est perdue au moment de la chute, de même que les matières premières importées de mondes oubliés dans l'espace et le temps. C'est du moins ce que je croyais. Mais j'avais devant moi, de toute évidence, un être âgé de plusieurs siècles qui avait dû recevoir pour la dernière fois ce traitement à une époque relativement récente, quelques dizaines d'années au maximum. Le vieillard ouvrit les yeux. Il m'est arrivé depuis de croiser des regards aussi intenses, mais rien dans ma vie jusque-là ne m'avait préparé à un tel choc. Je dus faire un pas en arrière.
« Approchez-vous, Roland Dimion. »
Sa voix évoquait le frottement d'une lame émoussée sur une feuille de parchemin. Sa bouche remuait comme le bec d'une tortue. Je m'avançais pour ne m'arrêter que lorsqu'il n'y eut plus qu'une console com entre la forme momifiée et moi. Le vieillard cligna des yeux et leva une main osseuse qui semblait encore trop lourde pour son poignet desséché comme une brindille.
« Savez-vous qui je suis ?»
demanda-t-il d'une voix guère plus audible qu'un soupir. Je secouai négativement la tête.
« Savez-vous où vous êtes ?»
Je pris une profonde inspiration. Endymion, la vieille université abandonnée, je pense. Les rides au coin de ses lèvres se tirèrent en arrière en un sourire édenté.
« Bravo !» L'héritier du nom reconnaît le vieux tas de pierres qui a donné son patronyme à sa famille. Mais vous ne voyez pas qui je peux être.
Non.
Et vous n'êtes pas curieux de savoir comment vous avez survécu à votre exécution.
J'attendis sans rien dire, les doigts sur les coutures de mon pantalon de salopette. Le vieillard esquissa un nouveau sourire.
« Encore bravo. Tout finit par venir à celui qui sait attendre. Et les détails ne sont pas si intéressants que cela. Quelques pots de vin en haut lieu, un étourdisseur substitué au bâton de la mort, d'autres pots de vin à ceux qui étaient chargés de constater le décès et de s'occuper du cadavre. » Ce n'est pas tant le comment qui nous intéresse, n'est-ce pas, Roland Dimion ?
Non, répondis-je finalement. Pourquoi ? Le bec de tortue fut animé d'un tressautement, la tête massive d'Odelina plusieurs fois. Je remarquai que malgré les atteintes des ans, ses traits étaient toujours vifs et anguleux. Il avait l'expression d'un satyre.
« Précisément,
dit-il.
Pourquoi, Pour quelle raison se donner la peine de simuler votre exécution et de transporter votre foutue carcasse à travers la moitié d'un putain de continent? Quel mobile peut-il y avoir derrière tout ça?
Les obscénités qui émaillaient le discours du vieil homme ne semblaient pas déplacées dans sa bouche, comme si la chose lui était tellement habituelle que plus personne n'avait besoin d'y prêter attention. J'attendais toujours.
« J'ai une commission à vous confier, Roland Dimion, »
souffla-t-il tandis que des fluides pâles cheminaient dans son goutte à goutte. « Ai-je le choix ?» Le visage me fit un nouveau sourire, mais les yeux demeurèrent aussi inchangés que les pierres des murs.
« On a toujours le choix, mon jeune ami. Dans le cas présent, vous pouvez toujours faire abstraction de la dette que vous avez envers moi pour vous avoir sauvé la vie et vous en aller simplement d'ici. Mes gens ne vous arrêteront pas. Avec un peu de chance, vous pourrez même sortir de la zone réservée et retrouver votre chemin vers des régions plus civilisées, en évitant les contrôles des patrouilles de la Pax, aux yeux de qui votre identité et votre absence de papier en règle pourraient se révéler fort embarrassantes. »
Je hochai la tête. Mes vêtements, ma montre, mes papiers professionnels et mes documents d'identité de la Pax avait dû rester dans la baie de Toshaï. Mon activité de guide de chasse dans les marais avait tendance à me faire oublier les très nombreux contrôles d'identité dans les cités. Ma mémoire ne tarderait pas à être rafraîchie si je retournais errer dans les villes de la côte ou celles de l'intérieur. Même les emplois ruraux comme celui de berger ou de guide nécessitaient une inscription en bonne et due forme sur les registres de la Pax pour l'impôt et la dîme. La seule alternative serait de me cacher dans l'intérieur des terres pour le restant de mes jours, en subsistant tant bien que mal sur le terrain et en évitant tout contact avec les gens.
« D'un autre côté, »
poursuivit le vieil homme,
« vous pouvez me rendre le service que je vous demande et devenir très riche. »
Il s'interrompit pour me scruter de ses yeux noirs, à la manière d'un chasseur en train d'examiner des chiots pour essayer de savoir s'ils feront ou non de bons chiens de chasse. « Dites-moi ce qu'il faut faire, » murmurai-je. Il ferma les yeux et laissa échapper un bruyant soupir. Puis il parla sans se donner la peine de rouvrir les paupières.
« Savez-vous lire, Roland Dimion ?»«
Oui. »
Avez-vous lu le poème connu sous le nom de Cantos?
Non.
Une partie, quand même, sans doute. Étant né dans l'un des clans nomades de bergers du Nord, vous n'avez pu manquer d'entendre vos 10 heures d'histoire vous parler des Cantos.
La voix chevrotante avait pris un ton étrange. Un rien de modestie, peut-être. Je relevai la tête. J'en ai entendu des fragments, mais mon clan préférait l'épopée de Garden ou la saga de Glennonite. Ses traits de satyre se plissèrent en un sourire.
L'épopée de Garden, oui. Roll était un héros centaure dans cette histoire, si je me souviens bien.
Je ne répondis pas. Grande Dame adorait le personnage du centaure nommé Roll. Ma mère et moi, nous avions grandi en écoutant ces récits.
« Croyez-vous à toutes ces histoires ?»
me demanda brusquement l'aïeul.
« Je veux parler des Cantos, »
ajouta-t-il. « Si j'y crois ? Vous voulez dire si je crois que les choses se sont vraiment passées ainsi ? Avec les pèlerins, le Gritch et tout ça ?» Je marquai un instant de pause. Certains gobaient aveuglément toutes les fables détaillées dans les Cantos. D'autres n'y croyaient pas du tout, ou les considéraient comme des mythes et des divagations assemblées pour ajouter du mystère à l'horrible guerre et à la confusion qui régnait au moment de la chute. « Je n'y avais jamais réfléchi vraiment, » ajoutai-je au bout d'un moment sincère. « Est-ce très important ?» Il me donna l'impression qu'il s'étouffait, mais je me rendis très vite compte que les bruits secs et saccadés qu'il émettait étaient des gloussements de rire.
« Pas tellement, non, »
murmura-t-il enfin.
« Écoutez, je vais vous donner les grandes lignes du service que je vous demande. Cela me coûte de parler trop longtemps, aussi vous prierai-je de garder vos questions pour la fin. »
Il cligna plusieurs fois des paupières et fit un geste de sa main griffue et tachetée en direction du siège couvert d'un drap blanc.
« Voulez-vous vous asseoir ?»
Je secouai négativement la tête et demeurai en appui sur une hanche.
« Très bien, »
fit le vieillard.
« Mon histoire commence il y a 275 ans moins des poussières, pendant la chute. L'un des pèlerins des Cantos était une amie nommée Brown Lamia. Je peux vous assurer que c'était quelqu'un de bien réel. » Après la chute, après la fin de l'hégémonie et la réouverture des tombeaux du temps, Brown Lamia donna naissance à une fille. L'enfant fut appelé Diana, mais elle avait du caractère et changea son propre nom pratiquement dès qu'elle fut en âge de parler. Pendant quelque temps, elle se fit appeler Cynthia, puis Kate et Kat en abrégé. À 12 ans, elle insista pour que ses amis et sa famille l'appellent Thémis. La dernière fois que je l'ai vue, elle se nommait Aînée.
Je compris d'abord qu'il disait « Aînée ». Puis le vieillard s'interrompit pour plisser ses yeux ridés.
« Vous pensez peut-être que tout cela n'est pas bien important, mais détrompez-vous. Les noms ont une très grande importance. » Si vous n'aviez pas porté celui de la cité où nous sommes, elle-même nommée d'après un très ancien poème, vous n'auriez jamais attiré mon attention et vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Vous seriez mort, en train de servir de pâture aux vers Skark de la Grande Mer du Sud. Comprenez-vous bien, Roland Dimion ?
Non, répliquai-je. Il secoua la tête.
C'est sans importance. Où en étais-je?
La dernière fois que vous avez vu l'enfant, elle s'appelait Aînée.
Oui.
Il ferma de nouveau les yeux.
Ce n'était pas une enfant particulièrement attrayante, mais elle avait quelque chose d'unique. Tous ceux qui la connaissaient s'accordait pour la trouver différente. Ce n'était pas une enfant gâtée, malgré ses caprices au sujet des noms.
Il sourit, exhibant des gencives gris-roses.
Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de profondément différent des autres, Roland Dimion ?
Je n'hésitai qu'une seule seconde. Non, lui dis-je. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il était lui-même différent, mais je savais que ce n'était pas le sens de sa question.
Kate, ou Aînée, était profondément différente,
reprit-il, les paupières de nouveau closes.
Et sa mère le savait. Naturellement, Brown se doutait avant sa naissance que ce ne serait pas un enfant comme les autres.
Il s'interrompit de nouveau et entr'ouvrit les yeux juste le temps de me jeter un regard perçant.
Vous avez lu cette partie des Cantos ?
Oui, répondis-je. Une entité cybride avait prédit que la femme nommée Lamia donnerait naissance à une fille désignée sous le nom de celle qui enseigne. Un instant, je crus que le vieillard allait cracher.
Un nom stupide ! Personne n'a appelé Aînée ainsi pendant toute l'époque où je l'ai connue. Ce n'était qu'une enfant, brillante et têtue, mais une enfant tout de même. Ce qu'elle avait d'unique l'était seulement de manière potentielle. Et c'est alors que...
Sa voix mourut, et ses yeux semblèrent se voiler. On aurait pu croire qu'il avait perdu le fil de la conversation. J'attendis.
C'est alors que Brown Lamia mourut.
dit-il quelques minutes plus tard d'une voix plus forte, comme s'il n'y avait pas eu de coupure dans son monologue.
« Et qu'est née disparue, »
reprit-il.
« Elle avait 12 ans. Officiellement, j'étais son tuteur, mais elle ne me demanda pas mon autorisation pour disparaître. Un jour, elle quitta la maison et je ne la revis plus jamais. »
Ici, l'histoire fut de nouveau interrompue, comme si le vieillard avait une mécanique interne qu'il fallait remonter à intervalles réguliers.
« Où en étais-je ? »
demanda-t-il au bout de quelques minutes. « Vous ne l'avez jamais revue. »
« C'est exact, je ne l'ai jamais revue, mais je sais où elle est allée et à quel moment elle reviendra. Les tombeaux du temps sont aujourd'hui un territoire interdit, caché à la vue du public par les troupes de la Pax qui y stationnent. Mais est-ce que vous vous souvenez du nom et de la fonction de chacun des tombeaux, Roll Endymion ? »
J'émis un grognement. Grand Dame me posait toujours des cols de ce genre sur certains aspects des récits. Je la trouvais très vieille, mais Grand Dame était un bébé à côté de la créature ratatinée que j'avais maintenant devant moi. « Je me souviens des tombeaux, je pense, » lui dis-je. « Il y avait le sphinx, le tombeau de jade, l'obélisque, le monolithe de cristal, où se trouve la sépulture du soldat. »«
Le colonel Fedman Kassad. »
murmura le vieillard en tournant de nouveau vers moi ses yeux mi-clos.
Et ensuite ?
Ensuite, il y a les 3 caveaux.
Seul le 3e caveau conduisait quelque part,
m'interrompit de nouveau le vieillard.
Dans des labyrinthes situés sur d'autres mondes. Et la Pax l'a scellé. Poursuivez.
C'est tout ce dont je me souviens. Ah ! Il y a aussi le palais du Gritch. Le vieillard arbora son sourire en bec de tortue.
Il ne s'agit pas d'oublier notre vieil ami le Gritch, ni son palais, bien sûr. Mais c'est tout.
Je crois, oui. Le visage de Momi s'inclina en avant.
La fille de Bran Namia a disparu dans l'un de ses tombeaux. Vous devinez lequel ?
« Non. Je ne connaissais pas la réponse, mais j'avais mon idée. »
« 7 jours après la mort de sa mère, la fillette, après avoir laissé un mot dans sa chambre, s'est rendue dans le sphinx au cœur de la nuit et a disparu sans laisser de traces. Est-ce que vous vous rappelez où conduisait le sphinx, jeune homme ?»
D'après les Cantos, Sol Weintraub et sa fille sont passés par le Sphinx pour voyager dans un avenir lointain ?
C'est exact,
murmura l'ancêtre dans son lit flottant.
Sol et Rachel, accompagnés de quelques autres, ont disparu dans le Sphinx avant que la Pax en condamne l'accès en même temps que celui de la vallée des tombeaux du temps. Beaucoup avaient essayé à l'époque de trouver un raccourci vers le futur, mais le sphinx semblait se réserver le droit de choisir ceux à qui il ouvrait ses galeries à travers le temps.
Et il a accepté la fillette. L'aïeul accueillit cette évidence d'un simple grognement.
Roll Endymion,
me dit-il au bout d'un moment de sa voix éraillée.
« Savez-vous quel service je vais maintenant vous demander ?»«
Non, » répondis-je, « mais j'avais là aussi mon idée. »«
Je vais vous demander de retrouver ma petite aînée, »
me dit-il.
« Je veux que vous la protégiez de la Pax, que vous restiez avec elle et que lorsqu'elle aura grandi suffisamment pour devenir ce qu'elle doit devenir, » vous lui transmettiez un message. Je veux que vous lui disiez que son oncle Martin est en train de trépasser et que si elle veut lui parler une dernière fois, il faut qu'elle rentre à la maison.
Je réprimai un soupir. J'avais deviné que cette chose qui ressemblait à une momie avait jadis été le poète Martin Silenus. Tout le monde a entendu parler des Cantos et de leur auteur. Par quel miracle il avait pu échapper aux purges de la Pax et continuer à vivre dans cette zone interdite? C'était un mystère que je ne tenais pas vraiment à explorer. Ce que vous me demandez, c'est de partir en direction du nord jusqu'au continent d'Equus, de franchir un barrage de plusieurs milliers d'hommes de la Pax, de m'introduire, j'ignore comment, dans la vallée des tombeaux du temps, puis dans le Sphinx, en espérant qu'il m'acceptera, de poursuivre ensuite cette petite fille dans un futur lointain, de rester avec elle durant quelques dizaines d'années, et de lui dire alors qu'elle doit retourner en arrière dans le temps pour vous revoir. Il y eut un long silence, interrompu seulement par les bruits discrets des équipements de vie de Martin Silenus. Ses machines respiraient.
« Pas exactement »,
me dit-il enfin. J'attendis.
« Elle n'a pas gagné un avenir lointain »,
m'expliqua-t-il.
« Pas lointain par rapport à nous, en tout cas. Lorsqu'elle est entrée dans le Sphinx il y a 247 ans, c'est pour accomplir seulement un bref voyage dans le temps. 262 années d'Hyperion, pour être exact.
« Comment le savez-vous ? » demandai-je. D'après tout ce que j'avais lu, personne, pas même les spécialistes de la Pax qui avaient eu 2 siècles pour étudier les tombeaux scellés, n'avait jamais pu prédire à quelle distance dans l'avenir le Sphinx allait expédier quelqu'un.
« Je le sais !»
affirma le vieux poète.
« Mettez-vous ma parole en doute !»
Au lieu de lui répondre, je murmurai. « Donc, l'enfant est né ?» doit ressortir du Sphinx à un moment donné cette année.
Elle sortira du Sphinx dans 42 heures et 16 minutes,
déclara le vieux satyre. J'avoue qu'à cela, je battis plusieurs fois des paupières.
Mais les hommes de la Pax seront là pour l'attendre,
poursuivit-il.
Ils savent également à la minute près à quel moment elle émergera du futur.
Je ne lui demandais pas d'où il tenait l'information.
La capture des nés est l'événement le plus important du calendrier de la Pax pour ses prochains jours,
fit le vieux poète de sa voix éraillée.
Tout l'avenir de l'univers en dépend.
J'en conclus qu'il était véritablement sénile. L'avenir de l'univers ne pouvait, à ma connaissance, dépendre d'un événement unique. Je gardais le silence.
Il y a en ce moment plus de 30 000 hommes de la Pax dans la vallée et aux alentours des tombeaux du temps,
me dit-il.
Parmi eux, 5 000 au moins sont des gardes suisses du Vatican.
Je laissai échapper un sifflement. Les gardes suisses du Vatican constituent l'élite de l'élite, la mieux entraînée et la mieux équipée de toutes les forces militaires réparties sur le vaste territoire contrôlé par la Pax. Une 12aine de gardes du Vatican, avec leur équipement complet, aurait suffi à écraser les 10 000 hommes de la garde nationale d'Hyperion. Si je comprends bien, déclarai-je, j'ai 42 heures pour gagner Equus, traverser la mer des Hautes Herbes, franchir les montagnes, passer à travers un barrage de 20 ou 30 000 hommes d'élite de la Pax et les empêcher de capturer une petite fille.
C'est à peu près ça, oui.
Je réussis à ne pas rouler les yeux. Et ensuite, demandai-je, nous n'aurons aucun endroit où nous cacher? La Pax contrôle la totalité d'Hyperion, des moyens de transport interstellaires, des couloirs spatiaux et des mondes qui faisaient autrefois partie de l'hégémonie. Si cette petite fille est aussi importante que vous le dites, ils mettront Hyperion sans dessus-dessous jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Même si nous pouvions quitter la planète, ce qui n'est pas le cas, nous n'aurions aucun endroit où nous réfugier.
Il existe un moyen de quitter cette planète,
me dit le vieux poète d'une voix infiniment lasse.
un certain vaisseau spatial. »
Je déglutis avec difficulté. Un certain vaisseau spatial. L'idée de voyager entre les étoiles pendant des mois, tandis que des décennies ou même seulement des années s'écoulaient chez moi, me coupait le souffle. Je m'étais engagé dans la garde nationale avec l'espoir puéril d'appartenir un jour aux forces armées de la Pax et de voyager d'une étoile à l'autre. Idée ridicule pour un jeune qui avait déjà décidé de ne pas accepter le cruciforme. « Même ainsi, murmurai-je sans croire vraiment à cette idée de vaisseau spatial, aucun membre de la Pax Mercantilus n'accepterait jamais de prendre des fugitifs à son bord. Et si nous réussissions par miracle à rejoindre l'autre monde, il nous aurait quand même. À moins que vous n'ayez dans l'idée de nous faire accumuler des siècles de déficits et de temps sur ce vaisseau.
« Ce n'est pas mon intention, » me dit le vieillard. « Ni des siècles, ni des décennies. Ce vaisseau vous fera gagner l'un des mondes de l'ex-hégémonie les plus proches de nous. De là, vous emprunterez un chemin secret. Vous visiterez les anciens mondes et vous naviguerez sur le fleuve Tétis. »
J'étais certain, à présent, que le vieil homme avait perdu la raison. Lorsque les modulateurs d'Istrance avaient cessé de fonctionner et que le technocentre des IA avait abandonné l'humanité, le Retz et l'hégémonie étaient morts en même temps. La tyrannie des distances interstellaires avait été imposée de nouveau à l'humanité. À présent, seules les forces de la Pax, leur mercantilus fantoche et les extros détestés par tout le monde, bravaient les ténèbres entre les étoiles.
« Venez, »
fit le vieillard. Ses doigts crochus refusaient de se déplier, tandis qu'il me faisait signe d'approcher. Je me penchai sur la petite console com. Son odeur me parvint, vague mélange de produits pharmaceutiques, de vieillesse et de quelque chose qui ressemblait à du cuir tanné. Je n'avais pas besoin du souvenir des récits de feu de camp de grande âme pour expliquer le fleuve Tétis et prendre conscience de la raison pour laquelle j'avais à présent la certitude que le vieil homme était dans un état de sénilité avancée. Tout le monde a entendu parler du Tétis. Au même titre que le quartier marchand, il constituait une voie d'Istrance constamment fréquentée entre les mondes de l'hégémonie. Le quartier marchand, en fait, était une longue avenue reliant une centaine de mondes appartenant à autant de systèmes solaires. Ses artères étaient ouvertes à tout le monde, et cousus ensemble par des portails d'Istrance qui ne se fermaient jamais. Le fleuve Tétis était une voie moins fréquentée, mais qui avait une importance capitale dans les transports de marchandises et la circulation d'innombrables petits vaisseaux de plaisance qui se laissaient flotter sans effort d'un monde à l'autre à la surface de ce canal unique. Le quartier marchand avait été découpé en plusieurs centaines de tronçons distincts à la chute du réseau d'Istrance du Retz. Le fleuve Tétis, lui, avait purement et simplement cessé d'exister. Ses portails de liaison étaient devenus inutiles, et le fleuve unique qui coulait dans une centaine de mondes s'était retransformé en une centaine de cours d'eau qui ne seraient plus jamais reliés. Même le vieux poète assis en face de moi avait décrit la mort du fleuve. Je me souvenais des mots des cantos que nous récitait Grandame. Et le fleuve qui coulait, depuis deux siècles ou plus, à travers l'espace et le temps, par les machinations du technocentre, cessa de desservir Fuji, le monde de Barnard, Actéon et d'Enebdrey, Espérance et Nevermore. Partout où passait le Tétis, tel un ruban traversant les mondes humains, aucun portail ne s'ouvrait plus, le lit des cours d'eau était à sec, et les tourbillons du courant avaient disparu. Perdues étaient les machinations du technocentre, perdus à jamais les voyageurs, fermés portes et portails. Jamais plus le Tétis ne coulerait.
« Approchez !» murmura le vieux poète en agitant de nouveau vers moi ses doigts crochus et jaunes.
Je me penchai vers lui. Son haleine était comme le souffle sec exhalé par un caveau que l'on venait d'ouvrir. Sans odeur, mais terriblement ancien et chargé du poids de plusieurs siècles d'oubli. Il chuchota alors,
tout objet de beauté est une joie qui demeure. Son charme croît sans cesse et jamais ne sombrera dans le néant. »
Je rejetai la tête en arrière et acquiesçai muettement, comme si le vieil homme avait dit quelque chose de sensé. Mais il était clair qu'il était fou allié. Comme s'il lisait dans mes pensées, le poète se mit à glousser.
« Je me suis souvent fait traiter de fou par ceux qui sous-estiment le pouvoir de la poésie. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, Roland Endymion. Nous nous reverrons à l'heure du dîner et je finirai de vous décrire l'entreprise à laquelle je vous convie. Vous déciderez alors. Pour le moment, reposez-vous. Votre mort et votre résurrection ont dû vous fatiguer. »
Il se pencha en avant et émit la série de craquements secs que j'avais appris à identifier comme un rire. L'androïde me reconduisit dans ma chambre. Par les fenêtres de la tour, j'apercevais des courettes et des bâtiments annexes. J'entrevis aussi un deuxième androïde, également mâle, qui traversait le déambulatoire de la grande cour. Mon guide ouvrit la porte et s'effaça pour me laisser entrer. Je compris alors qu'il n'avait pas l'intention de m'enfermer ici, que je n'étais pas prisonnier. « Vous trouverez des habits du soir préparés à votre intention, monsieur, » me dit la créature à la peau bleue. « Vous êtes libre, bien entendu, d'aller où vous voudrez dans les bâtiments de la vieille université, mais je dois vous informer, H. Endymion, que la forêt et les montagnes alentour recèlent de dangereuses bêtes sauvages. » Je hochai la tête avec un sourire. Ce n'étaient pas les bêtes sauvages, dangereuses ou non, qui allaient m'empêcher de partir d'ici si je le désirais. Pour le moment, cependant, tel n'était pas le cas. Au moment où l'androïde se tournait pour partir, je m'avançai vers lui, poussé par une étrange impulsion, et fis une chose qui allait changer pour toujours le cours de mon existence. « Attendez, » lui dis-je en lui tendant la main. « Nous n'avons pas encore été présentés. Je m'appelle Roland Endymion. » Durant un long moment, l'androïde se contenta de regarder ma main en silence et j'acquis la conviction d'avoir enfreint je ne sais quelle règle de protocole. Les androïdes, après tout, étaient considérés, il y a plusieurs siècles, comme des créatures moins qu'humaines, biofabriquées pour les besoins de l'expansion égyrienne. Mais l'homme artificiel finit par me serrer vigoureusement la main en murmurant d'une voix douce « Je m'appelle Abétik. C'est un plaisir pour moi que de faire votre connaissance. » Abétik. Le nom réveillait en moi des échos que je ne parvenais pas à situer pour le moment. « J'aimerais bavarder un peu avec vous, Abétik, » lui dis-je. « En apprendre davantage sur cet endroit et sur le vieux poète. » Les yeux bleus de l'androïde se levèrent vers moi, et je crus entrevoir dans son regard quelque chose comme de l'amusement. « Certainement, monsieur, » me dit-il. « Je serai heureux de discuter avec vous. Un peu plus tard, peut-être, car j'ai pour le moment de nombreuses tâches à accomplir. »
« Plus tard, c'est entendu, » répliquai-je en faisant un pas en arrière. « J'y compte bien. »
Abétik hocha la tête et redescendit l'escalier de la tour. J'examinai ma chambre en détail. Mis à part le lit qui venait d'être fait et un ensemble d'élégants vêtements du soir posés dessus, elle était restée comme dans le passé. Je m'avançai jusqu'à la fenêtre pour contempler les ruines de l'université d'Endymion. De grands arbres bleus à feuilles persistantes ondoyaient sous la brise. Les feuilles mauves des massifs de Vorte aux abords de la tour se détachaient pour racler les dalles de l'allée 20 mètres plus bas. Les chalmes embaumaient l'air de leur parfum caractéristique de cannelle. J'avais grandi à quelques centaines de kilomètres d'ici à peine en direction du nord-est, sur les Landes d'Aquila situées entre ces montagnes et la région tourmentée que l'on appelle le Bec. Mais la vigueur froide de l'air des montagnes locales m'était nouvelle. Et le ciel me paraissait d'une couleur lapis plus intense que celle des Landes et des basses terres de mon enfance. Je humais l'air de l'automne et fis un large sourire. Quels que fussent les événements étranges qui pouvaient m'attendre,
j'étais drôlement content d'être en vie. Quittant la fenêtre, je pris l'escalier de la tour et contemplai l'université et la cité d'où ma famille tirait son nom. Même si le vieux poète était complètement fou, la conversation au dîner promettait d'être intéressante. Brusquement, alors que j'étais presque arrivé au pied de l'escalier, je m'arrêtai net sur ma lancée. Abétique. J'avais entendu ce nom dans les récits de grandes dames tirées des Cantos. C'était l'androïde qui avait piloté le Bénarès, la barge de lévitation des pèlerins, depuis la cité de Kitz, sur le continent d'Écus, jusqu'au fleuve Ouli, en passant par le port fluvial de Nayad, les écluses de Karla, et la forêt de Doukhobor, où le fleuve cessait d'être navigable pour se perdre dans la bordure. De là, les pèlerins avaient continué seuls sur la mer des Hautes Herbes. Lorsque tout enfant j'écoutais ces récits, je me demandais toujours pourquoi Abétique était le seul androïde qui portait un nom. Et je me demandais aussi ce qu'il était devenu lorsque les pèlerins l'avaient abandonné dans la bordure. Mais plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis et le nom s'était perdu dans ma mémoire. Je secouais la tête. Était-ce le vieux poète qui était fou ou bien moi? Puis je sortis dans la lumière douce de cette belle fin d'après-midi pour explorer Endymion. Chapitre 5. Au moment même où je quitte Abétique, 6000 années-lumière plus loin, dans un système solaire uniquement connu sous sa désignation NGC et ses coordonnées de navigation, un corps expéditionnaire de la Pax, constitué de 3 vaisseaux torches rapides et commandé par le père capitaine Federico de Soya, est en train d'anéantir une forêt orbitale. Les arbres extra n'ont aucune défense contre les engins de guerre de la Pax, et la rencontre est plutôt un massacre qu'une bataille. Je me dois ici de vous apporter une précision. Ne croyez pas que je sois en train de me livrer à des spéculations sur cette suite d'événements. Non. Ils se sont produits exactement comme je l'ai décrit. Je n'extrapole d'aucune manière et je n'invente rien, même en ce qui concerne les scènes où vous verrez le capitaine de Soya et ses hommes se livrer à des exactions sans témoin. Même lorsque je vous décrirai leurs émotions, ou encore ce qu'ils pensaient. Il s'agit de la stricte vérité. Plus tard, je vous expliquerai comment je suis au courant de ces choses sans la moindre distorsion. Mais pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est de les accepter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire la vérité pure. Les 3 vaisseaux-torches de la Pax quittent leur vitesse relativiste sous plus de 600 gravités de décélération. C'est ce que les voyageurs de l'espace appellent, depuis plusieurs siècles, la V-delta à la confiture de framboise. Vous avez compris, naturellement, que cela fait allusion au fait que si les champs de confinement interne venaient à défaillir, ne fût-ce qu'une seule microseconde, l'équipage ressemblerait vite à une fine couche de confiture étalée sur les plaques du pont. Mais les champs de confinement n'ont aucune raison de défaillir. À 1 UA de distance, le père capitaine de Soya centre la forêt orbitale dans sa sphère d'observation. Tout le monde, dans la cabine de commandement de combat, interrompt ses activités pour regarder le spectacle. Plusieurs milliers d'arbres modifiés par les extros, chacun atteignant au moins 500 mètres de long, se déplacent en une chorégraphie complexe le long du plan de l'écliptique. Il y a là des bosquets agglutinés par gravité, des troncs torsadés et des configurations d'arbres aux changements subtils, toujours en mouvement, leurs feuilles toujours tournées vers le même soleil de type G, leurs longues branches modifiant lentement leur orientation à la recherche de l'alignement parfait. Leurs racines assoiffées plongées dans les brumes vaporeuses des nutriments humides, fournis par des comètes bergères, évoluant parmi les bosquets comme de gigantesques boules de neige sales. Voltant au milieu des branches, ou même d'un arbre à l'autre, des variantes extra sont visibles, avec leur forme humanoïde à la peau miroir et aux ailes de papillon ultra fines, s'étendant sur des centaines de mètres. Ces ailes leur servent à capter le soleil par intermittence lorsqu'elles se déploient et clignotent comme des boules de Noël contre le feuillage vert de la forêt orbitale. « Feu !» commande le capitaine Federico de Soya. À 2/3 UA, les 3 vaisseaux-torches du corps expéditionnaire Mage de la Pax ouvrent le feu avec leurs armes longue distance. Ils sont encore si loin que même les rayons d'énergie sembleraient se traîner vers leurs objectifs, comme des vers lumineux sur un couvre-lit noir, si les bâtiments de la Pax n'étaient pas équipés d'armements hypercinétiques à très haute vélocité, essentiellement de petits vaisseaux interstellaires autonomes à propulsion Hawking, parfois munis d'ogives au plasma, lancés en quelques microsecondes à des vitesses relativistes pour exploser au milieu de la forêt. Il y en a aussi qui sont conçus pour retomber dans l'espace réel avec une masse amplifiée et foncer à travers la forêt comme des boulets de canon tirés à bout portant à travers une épaisseur de carton mouillé. Quelques minutes plus tard, les trois vaisseaux torches sont à portée des rayons d'énergie et les RCC partent dans 1000 directions à la fois. Leurs rayons visibles grâce aux innombrables particules colloïdales qui remplissent à présent l'espace comme la poussière dans un vieux grenier. La forêt est en flammes. L'écorce modifiée, les doubles cosses et les feuilles autocellées éclatent sous l'effet de violentes décompressions ou sont lacérées par les rayons et les vrilles au plasma. Les globules d'oxygène qui s'en échappent alimentent le feu au milieu du vide jusqu'à ce que l'air gèle ou soit consumé. Et la forêt continue de brûler. Des dizaines de millions de feuilles s'envolent, projetées par les explosions, chaque feuille ou grappe de feuilles constituant un foyer à part pendant que les troncs et les branches brûlent contre le fond noir de l'espace. Les comètes bergères, dès qu'elles sont touchées, se volatilisent en un instant, éparpillant les troncs torsadés en ondes de choc centrifuges de vapeur et de fragments de roches fondues. Les extros modifiés pour l'espace, les anges de Lucifer, comme les forces de la Pax les appellent dédaigneusement depuis des siècles, sont pris dans les explosions comme des papillons de nuit translucides dans une flamme. Certains sont simplement désagrégés par les éruptions de plasma ou les éclatements des comètes. D'autres se font prendre sur la trajectoire des RCC et se transforment à leur tour en objets hypercinétiques juste avant que leurs ailes délicates et leurs organes éclatent dans toutes les directions à la fois. Un certain nombre essaient d'échapper au massacre en déployant leurs ailes solaires au maximum, mais leurs efforts restent vains. Il n'y a pas un seul survivant. La rencontre a duré moins de 5 minutes. Après cela, le corps expéditionnaire mage décélère à travers la forêt jusqu'à 30 gravités, les traînées des flammes de fusion des vaisseaux torches embrasant tous les fragments libres qui ont échappé à la première attaque. Là où la forêt flottait dans l'espace 5 minutes plus tôt, ses feuilles verdoyantes captant la lumière solaire et ses racines buvant l'eau des sphères comètes, là où les anges extro étaient en suspens comme autant de somptueuses diaphanes parmi les branches, il ne reste plus qu'un tor de fumée et de débris en expansion qui remplissent le plan de l'écliptique le long de cet arc d'espace.
« Des survivants ?» demande le père capitaine de Soya.
Debout devant l'affichage central de la C3, il a les mains nouées dans son dos et se tient en équilibre sur la pointe des pieds, à la limite du ruban tendu autour de la sphère d'affichage. Malgré le fait que le vaisseau torche décélère toujours sous 30 gravités, la cabine de commandement de combat est maintenue sous une microgravité standard d'1/50 g. Les 12 officiers qui occupent la pièce, assis ou debout, ont la tête orientée vers le centre de la sphère. De Soya est un petit homme trapu, âgé de 35 années standard au plus. Il a la figure ronde et la peau foncée. Ses amis ont remarqué, depuis quelques années, que son regard reflète de plus en plus la compassion d'un prêtre plutôt que l'inflexibilité d'un militaire. En fait, il semble plutôt troublé pour le moment.
« Aucun !»
lui répond la mère commandante Stone, son officier en second, jésuite elle aussi. Elle se détourne de l'affichage tactique pour se brancher sur une unité COM en train de clignoter. De Soya sait qu'aucun des officiers de la C3 n'est satisfait de la manière dont s'est présenté cet engagement. Détruire les forêts orbitales des extros fait partie de leur mission, car ces arbres d'apparence inoffensive servent aux essaims de centres d'entretien et de réapprovisionnement en carburant. Mais rares sont les soldats de la Pax qui prennent plaisir à opérer des destructions massives
qui ne se heurte à aucune résistance. Leur formation a fait d'eux des chevaliers de l'Église défenseurs de la Pax, et non des destructeurs de belles choses ou des assassins de formes de vie désarmées, même si ces formes de vie sont des extro-modifiés qui ont renoncé à conserver leur âme.
Disposez-vous en formation de recherche habituelle, ordonne de Soya. Que l'équipage demeure à ses postes de combat.
À bord d'un vaisseau torche moderne, l'équipage n'est composé que de ses 12 officiers, plus 6 membres répartis dans tous les coins du vaisseau. Soudain, la mère commandante Stone les interrompt.
« Capitaine, nous captons l'écho d'un propulseur Hawking avec une distorsion de 72, coordonnées 229-43-105. Point d'émergence C+ à 750 000 km. Probabilité qu'il s'agisse d'un engin unique, 96%. Vitesse relative inconnue. »
« Branle-bas de combat !» ordonne de Soya.
Il sourit sans en avoir vraiment conscience. Les extros se décident peut-être à courir pour porter secours à leur forêt. Peut-être aussi n'avaient-ils vraiment qu'un seul défenseur qui vient de lancer sur eux un missile à distance de sécurité à partir d'un point situé quelque part au-delà du nuage d'Oort du système. Il se peut également qu'il s'agisse de l'avant-garde d'un essaim entier de chasseurs extros et que sa force de combat soit condamnée. Quelle que soit la menace, cependant, le père capitaine de Soya préfère une bonne bataille à cet acte de barbarie qu'il vient de commettre.
« Engin inconnu en cours de translation !»
annonce l'officier d'acquisition de son perchoir au-dessus de la tête du père capitaine.
« Très bien !» répond ce dernier.
Il regarde de nouveau les affichages qui scintillent devant lui, remet sa dérivation à zéro et ouvre plusieurs canons optiques virtuels. La C3 disparaît progressivement et il se retrouve au milieu de l'espace, géant de 5 millions de kilomètres de haut, contemplant ses propres vaisseaux qui ont l'aspect de petits points noirs aux traînées flamboyantes, avec la colonne courbe de fumée à l'emplacement de la forêt détruite qui s'étale à hauteur de sa ceinture, et cet intrus qui apparaît à 700 000 kilomètres de là, soit à portée de sa main juste au-dessus du plan de l'écliptique. Les sphères rouges entourant ces vaisseaux représentent des champs de force à leur intensité de combat. D'autres couleurs emplissent l'espace. Ce sont des lectures de capteurs, des rayons pulsants d'acquisition et des préparations d'objectifs. Travaillant au niveau tactique à la milliseconde près, De Soya peut lancer des systèmes d'armes ou déchaîner les énergies qu'il veut uniquement en pointant et en faisant claquer ses doigts.
Signal de transpondeur, annonce l'officier COM. Vérification des codes en service. Il s'agit d'un courrier de la Pax, de la classe Archange.
De Soya fronce les sourcils. Qu'est-ce qui peut être important au point que le haut commandement de la Pax leur envoie le bâtiment le plus rapide du Vatican, qui est en même temps l'arme secrète la plus protégée de la Pax? De Soya voit les codes qui entourent le minuscule vaisseau dans l'espace tactique. Sa flamme de fusion s'étend sur des dizaines de kilomètres. Il n'utilise pratiquement aucune énergie pour ses champs de confinement intérieur et les gravités mises en œuvre vont bien au-delà de la confiture de framboise.
Automatique ? Demande-t-il.
Il l'espère de tout son cœur. Les bâtiments de la classe Archange peuvent se déplacer n'importe où dans l'espace connu en quelques jours et en temps réel, alors qu'il faut des semaines de temps de transit et des années de temps réel pour accomplir la même chose avec un bâtiment normal. L'ennui, c'est que personne n'est capable de survivre à un voyage archangélique. La mère commandante Stone rentre avec lui dans l'environnement tactique. Sa tunique noire est presque invisible sur le fond noir de l'espace, de sorte que son visage pâle semble flotter au-dessus de l'écliptique, ses pommettes hautes illuminées par la lumière solaire des étoiles virtuelles.
« Non, » murmure-t-elle tout bas.
Seul De Soya peut l'entendre dans ce mode vocal.
Le signal indique la présence de deux membres d'équipage en état de fugue, ajoute-t-elle une seconde plus tard.
D'où Jésus, fait De Soya.
C'est plus une prière qu'une exclamation. Même dans des caissons de fugue à jet élevé, ces deux passagers, déjà théoriquement tués par la partie C+ du voyage, ne peuvent pas être autre chose qu'une micro-couche de bouillie protéinée auprès de laquelle la confiture de framboise fait figure d'organisme en bonne santé.
« Préparez les couches de résurrection !» ordonne-t-il sur bande commune.
La mère commandante Stone touche la dérivation derrière son oreille et plisse le front.
« Message codé en incrustation. Les courriers humains doivent être ressuscités avec priorité alpha. Niveau de dispense oméga. »
Le père capitaine de Soya tourne brusquement la tête et il regarde un instant en silence son officier en second. La fumée de la forêt orbitale, qui achève de se consumer, tourbillonne au niveau de leur taille. Les résurrections prioritaires sont un défi à la doctrine de l'Église et à tous les règlements du haut commandement de la Pax. Il s'agit également d'opérations très dangereuses. Les risques de réintégration incomplète se situent entre des valeurs voisines de 0 sur le délai habituel de 3 jours et presque 50% sur 3 heures. Quant au niveau de priorité oméga, il signifie que sa sainteté est sur Passem. De Soya voit dans le regard de son second qu'elle est en train de se livrer aux mêmes réflexions. Ce vaisseau courrier vient du Vatican. Quelqu'un de là-bas, ou quelqu'un du haut commandement de la Pax, ou peut-être les deux, a considéré que ce message était assez important pour dépêcher un vaisseau courrier archange irremplaçable pour faire mourir deux officiers haut gradés de la Pax, car personne d'autre n'aurait été admis à bord d'un archange, et pour courir le risque d'une réintégration incomplète des officiers en question. Dans l'espace tactique, De Soya hausse un sourcil en réponse au regard interrogateur de son second. Sur la fréquence de commandement, il déclare
« Très bien, commandante. Ordonnez aux trois vaisseaux d'aligner leur vitesse. Constituez un groupe d'accostage. J'exige que le transbordement des caissons et les résurrections soient terminés à 6h30 au plus tard. Veuillez transmettre mes compliments au capitaine Hearn à bord du Melchior et à la mère capitaine Boulez à bord du Gaspard. Demandez-leur de me rejoindre ici à bord du Balthazar pour une réunion avec les courriers à 7h précise. »
Le père capitaine sort de l'espace tactique pour réintégrer la réalité de la C3. Stone et les autres sont toujours en train de le regarder.
« Pas de temps à perdre !» dit-il en quittant d'un coup de talon le périmètre d'affichage.
Il flotte en direction de ses quartiers privés et se hisse dans l'ouverture de la porte circulaire.
« Réveillez-moi quand les courriers seront ressuscités !»
dit-il au visage blême qu'il observe dans les secondes qui précèdent la fermeture du diaphragme.